12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Les deux films dont nous parlons ce midi sont français, mais ce n'est pas leur seul point commun. On y retrouve des personnages tiraillés, bousculés par la vie, une femme et un homme qui se trouvent ou se retrouvent, et puis un lieu qui permet à l'imaginaire de se développer, qui permet de trouver un refuge et de s'extraire de son quotidien, l'hôtel. Un hôtel à la mer, dans le film Hors saison de Stéphane Brisé avec notamment Guillaume Canet. Un hôtel à la montagne, dans le premier film de Maxime Rapaz, intitulé Laisse-moi, dont le personnage principal est incarné par Jeanne Balibar.
Et on en parle avec vous, Thierry Chasse, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, critique de cinéma, directeur de la rédaction du magazine Première, animateur de télévision et de radio. Et on en parle avec vous, Adrien Desnouettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique de cinéma et enseignant. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous commençons ce débat critique avec Hors saison de Stéphane Brisé, dans lequel jouent Guillaume Canet et Alba Rohrwacher.
Salut.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi?
Comment ça, qu'est-ce que je fais?
Dans la vie.
Je suis comédien.
Tu vas se mettre dur?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième?
Mathieu est comédien, comme celui qui l'incarne, Guillaume Canet. Mathieu est venu se ressourcer, trouver du calme, un refuge, après la tempête qu'il a créée à Paris, en plantant la troupe avec qui il montait une pièce de théâtre pour la première fois. Mathieu choisit un hôtel Thalasso en Bretagne. C'est là qu'il va retrouver, par hasard, un amour de jeunesse, Alice, jouée par Alba Rohrwacher, et Mathieu, qui se sont aimés il y a une quinzaine d'années, mais qui ne se sont jamais revus. Les anciens amants ont refait leur vie, ces retrouvailles déstabilisent, provoquent des larmes, des colères, des moments de tendresse intense, aussi au cours d'une balade en bateau ou d'un slow partagé lors d'une invitation à un mariage. Le film, co-scénarisé par Stéphane Brisé et Marie Drucker, tient sur ces deux personnages, ces deux acteurs aussi, lui, mélancolique, elle, bouleversante. Ce duo vous a-t-il touché, Thierry Chasse?
Beaucoup. Il m'a beaucoup touché, et en effet, pour toutes ces raisons-là. Alors, c'est le retour de Stéphane Brisé à un cinéma qui parle d'amour, puisqu'on se... Pour beaucoup de gens, et ses succès, grands succès, sont les films sur le monde du travail, La Voix du Marché, En Guerre, Un Autre Monde. Mais avant cela, tous ses films précédents, commencé par Le Bleu des Villes, Je ne suis pas là pour être aimé, et Mademoiselle Chambon, parlaient d'amour. C'est des retrouvailles sur un... Une fois que vous avez raconté cette histoire, qui est une histoire on ne peut plus classique, et Stéphane Brisé va à fond dans le film d'amour, au risque en effet de laisser les gens de côté, au risque de trouver ça peut-être un peu... ridicule, appuyé, mais la grande qualité de ce film pour moi, et comme souvent chez Brisé d'ailleurs, c'est la direction d'acteur. C'est étrange de voir Guillaume Canet, pour la troisième fois, jouer un rôle qui se rapproche de lui. Dans Rock'n'Roll, il jouait vraiment son personnage, dans Lui, qu'il a aussi réalisé, il jouait un musicien, mais enfin, qui faisait appel à lui. On se dit, mais pourquoi a-t-il accepté de jouer, pas son propre rôle, mais enfin le rôle d'un acteur qui vient de lâcher une pièce de théâtre dont il devait être l'interprète principal et qui va mal. Et à côté, il y a Alice Rohrwacher. Et Alice Rohrwacher,
Alba
Rohrwacher, par contre.
Alice,
c'est sa sœur. Alba, qui est pour moi une des meilleures actrices européennes. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les films dans lesquels on a pu la voir, Hungry Hearts ou les films de sa sœur Alice, c'est des rôles où elle est toujours très borderline, très folle, elle limite vraiment de... Et là, il lui donne quelque chose de beaucoup plus doux. Et le film devient eux deux. Le film se passe de dialogue, le film passe par leur regard. Et moi, je peux regarder Alba Rohrwacher des heures, et à chaque fois, je vois quelque chose de nouveau dans son visage. Et c'est ce qui fait que je me suis perdu, abandonné dans ce film.
Alba Rohrwacher qui joue Alice dans le film.
Voilà.
C'est d'où cette confusion qui m'est apparue également, Thierry Chasse. Adrien Denouette, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film, ce couple, ou alors les deux acteurs, les deux interprétations d'acteurs séparément, ou leur alchimie, qu'est-ce qui vous a le plus fait?
Alors clairement, je suis d'accord avec vous, je suis totalement d'accord avec Thierry. Le film, dans ce qu'il réussit, tout n'est pas réussi, mais dans ce qu'il réussit, il le doit vraiment à sa direction d'acteur, évidemment à ses acteurs aussi, à la performance vraiment de ces deux acteurs qui sont peut-être d'abord très très bien choisis, bon, je vais revenir là-dessus, et au plaisir qu'ils y prennent vraiment à jouer, j'ai presque envie de dire, pour elle, un contre-emploi qui lui correspond très très bien, et pour lui, son meilleur rôle. Qu'est-ce que j'appelle le meilleur rôle de Guillaume Canet? Eh ben, c'est exactement celui que vient de décrire Thierry. En fait, moi, je considère que Guillaume Canet n'est pas un très grand acteur, et je crois même qu'il est conscient de ça. Je crois que Guillaume Canet est un acteur qu'on aime retrouver, pour plein de raisons. Et l'une des raisons pour lesquelles on aime le retrouver, c'est quand il sait se moquer de lui-même. Il sait exactement pointer ce qui le rend parfois, et ce qui peut très bien le rendre très pathétique. Alors moi, par exemple, Thierry parlait à l'instant d'un film que j'adore, qui est un film comique, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est Rock'n'Roll. Quand Guillaume Canet joue sur l'autodérision, je considère que c'est peut-être un des meilleurs acteurs français capables de le faire. Pourquoi ? Parce que Guillaume Canet est aussi réalisateur. Je pense qu'il y a aussi une capacité à se regarder plus que d'autres, à se mettre en scène. Et je pense qu'il est très conscient de ce qui fait rire chez lui. Et j'en arrive au film. En fait, le film joue sur un truc assez difficile. Il part sur une tonalité assez légère. Parce qu'on voit d'abord son personnage à Guillaume Canet.
C'est lui d'abord le héros du film, quand c'est lui qu'on rencontre dans cet hôtel.
Mais c'est d'ailleurs un très long portrait, hein, peut-être de 25 minutes avant que Albert Horvacker, donc le personnage de cette ancienne petite amie qui ressurgit dans sa vie, arrive. On est vraiment sur Guillaume Canet, donc sur cette espèce de star qui bade en peignoir dans un spa.
Il pleure dans sa chambre d'hôtel, il se fait engueuler par son agent parce qu'il a quitté cette pièce de théâtre. Sa femme, qui est Marie Drucker, qui joue, en tout cas on entend sa voix, une journaliste qui présente le 20h. Donc voilà, il est dans cette situation de crise existentielle du comédien qui ne sait plus où il en est.
Et qui finalement n'est pas si légitime, parce qu'on comprend aussi que c'est quelqu'un qui a énormément de succès, qui a 4 pages dans Voici, dont la femme est extrêmement connue. Bref, un vrai double de fiction de Guillaume Canet. Or, Guillaume Canet, je le répète, et je le dis, moi, c'est mon ressenti, j'adore ce Guillaume Canet-là. C'est-à-dire que les 25 premières minutes du film, où on est dans une tonalité légère, pathétique, mais drôle, ça marche très très bien. Moi, voir Guillaume Canet avec une espèce de pantalon chauffant qui essaie de récupérer son portable, qui nous fait rentrer dans une espèce de, vraiment une espèce de scène qui en revient presque à faire penser au meilleur Jacques Tati, ça marche très bien et ça séduit à Guillaume Canet. Sauf qu'après, il se passe quelque chose de beaucoup plus périlleux, c'est que vous essayez d'aller dans le premier degré de la romance. Et le pire, c'est que ça marche. En fait, la rencontre entre les deux, qui se passe en deux temps, un temps de retrouvailles où on se raconte un peu ce qu'on est devenu après 15 ans, et puis un temps de règlement de compte avec un deuxième rendez-vous où là, en fait, on comprend qu'elle a été beaucoup plus brisée et abîmée par ce qui s'est passé que lui. Tout ça, ça marche très très bien. Mais vraiment, ça marche très bien. C'est-à-dire que Albert Horvacher ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. On voit vraiment que elle a fait un choix de vie. Disons qu'elle a choisi le conformisme presque par thérapie. Elle s'est rangée avec un médecin, elle est devenue une espèce de notable de province, une femme de notable de province, alors qu'elle avait des ambitions artistiques comme lui. Et donc à ce moment-là, on comprend que le film va basculer pas simplement dans des retrouvailles, mais aussi dans un film sur le cinéma, sur les ambitions, sur les illusions perdues, et donc sur les victimes collatérales de la réussite. Et tout ça, ça marche très bien. J'en reviendrai après à la nuance.
Thierry Chaise, sur le choix des comédiens et sur la crainte du réalisateur aussi, il avait dit choisir un comédien comme personnage aussi, voilà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on va pas lassé d'essayer de tirer un peu des larmes les états d'âme d'un comédien, etc. etc. Et au final, il arrive à nous faire oublier, c'est là où je suis d'accord avec Adrien Denouette, Guillaume Canet arrive à nous faire oublier qu'il est un comédien, qu'il est acteur, qu'il est cette star au fur et à mesure où le film avance.
Mais moi, je pense que Stéphane Brisé, pour diriger aussi bien, aime profondément les acteurs, que c'est quelque chose, parce qu'il y a des acteurs qui en ont peur, pour qui ce sont de simples objets. On peut parler d'un Bruno Dumont qui, lui, dit même « je suis presque le maître des marionnettes ». Il y a chez Brisé quelque chose qui fait qu'il comprend sans s'apesantir. Et que du coup, sa direction peut aller là-dedans. Moi, j'ai l'impression que en dehors de ses films, Guillaume Canet n'a jamais été aussi bien filmé, aussi bien regardé que chez Stéphane Brisé. Parce que justement, il y a d'un seul coup des moments de malice dans son regard que j'avais plus vu moi depuis jeu d'enfant quasiment, chez un autre, et qu'il a chez lui. Et c'est ça qui fait que ça marche, c'est que Brisé a ce parfait regard qui est, oui, bon, il pleure et en même temps il est un peu ridicule, mais le ridicule ne va jamais abîmer l'émotion et l'émotion ne va jamais prendre le pas sur le ridicule. Mais ça, une fois encore, c'est que je pense qu'il a en lui ce goût des comédiens depuis toujours.
Sur la forme, il y a pas mal de plans fixes, une sorte de rupture avec ce qu'a pu faire Stéphane Brisé. Avant, il y a évidemment toute cette ambiance, ces paysages. On est au bord de la mer, il y a ces grandes plages, il y a effectivement cet hôtel qui est presque aussi un personnage, en tout cas au début. Et puis, il y a cette passion qui, à un moment donné, prend le dessus, cette passion endormie qui se réveille. Et cette deuxième peut-être partie chez vous, Adrien Denouette, qui vous a fait un peu quitter le film.
Oui, vous parlez de passion endormie et je vais surtout rebondir sur le mot endormi, hélas. En fait, vraiment jusqu'à la moitié du film, je me laisse vraiment porter. Je sens, je vois frémir tout ce qui va être très très intéressant dans cette collision, ces retrouvailles. En fait, celle qui a beaucoup de choses à lui reprocher et lui qui ne veut pas tomber le masque, qui ne veut pas quitter le masque, en fait, du portrait qu'elle a brossé de lui, où au moment des retrouvailles, il lui dit, mais tu as réussi, tu es ce grand acteur, bravo à toi. En gros, il y a quelque chose d'extrêmement flatteur pour un acteur un peu en creux de, enfin, en tout cas, en pleine introspection, de se voir tendre un reflet extrêmement flatteur. Donc, il va garder pendant tout le film ce masque, et le masque ne tombera qu'à la fin. Mais donc, au milieu du film, c'est-à-dire toute la deuxième partie, le film bifurque vers une espèce de sous-intrigue que je n'ai vraiment pas compris.
Alors moi non plus.
Dans un EHPAD, littéralement, où on va s'intéresser à un personnage. En fait, il y a un personnage qui fait trait d'union. C'est une amie du personnage d'Alba Rohrwacher, qui est donc une personne âgée qui vit dans cet EHPAD. Et je comprends à un moment parce que cette amie, elle surgit avec une vidéo que lui envoie son amie et où que lui envoie le personnage d'Alba Rohrwacher et où on voit que cette vieille dame, en fait, a elle aussi opté pour une relation de confort, en fait, du conformisme par défaut, parce qu'elle avait eu une enfance très dure, et qu'ensuite elle a connu une histoire d'amour beaucoup plus tard avec une femme. Et on comprend donc qu'il y a, le film nous dit quoi à ce moment-là? Il y a des amours, il y a le grand amour, et il y a des amours choisis par défaut pour se réparer. Et là, je comprends ce qu'il fait. Sauf qu'après, on bascule dans 20 minutes dans un EHPAD, où en fait Stéphane Brisé redevient, pour moi, le plus mauvais Stéphane Brisé. À savoir, pas celui qui se passionne pour les acteurs, comme vient de le dire Thierry, où je suis d'accord avec lui, mais celui qui se passionne pour un sujet. Et moi, le Stéphane Brisé des sujets, c'est-à-dire le Stéphane Brisé de la trilogie sur le travail et le néolibéralisme, je n'ai jamais acheté. Autant je comprends qu'il s'intéresse à Vincent Lindon et qu'il trouve que le meilleur Vincent Lindon serait peut-être cette espèce de figure de prolo. Sauf que je suis d'accord, oui, d'accord, il a réussi à faire un vrai truc avec Vincent Lindon, il lui a vraiment redonné un nouveau souffle à sa carrière, il lui a presque inventé une persona, ça marche très bien, il en fait toute une carrière aujourd'hui, il fait plus que des films comme ça d'ailleurs, mais c'est pas le meilleur Stéphane Brisé. Le meilleur Stéphane Brisé, c'est celui qui s'intéresse à ses acteurs. Et ça, on le retrouve à la toute fin, quand on retrouve les acteurs, vous parliez de cadres tout à l'heure, quand on les retrouve surtout enfermés dans des voitures, et qu'en fait, on n'est plus qu'avec eux. On n'est plus qu'avec Guillaume Canet à son meilleur, Alba Rohrwacher à son meilleur à contre-emploi, et là, le film me retrouve. Mais au milieu, pardon, mais je perds le pouls du film. Vraiment, je lui touche le poignet, je perds le pouls.
Thierry Chaise, est-ce que vous avez compris, vous, cette parenthèse poétique, il faut le dire, parce que ça nous emmène vers ce mariage, ça nous emmène vers cette très belle scène aussi avec les chanteurs d'oiseaux, je veux pas trop en dire, mais il y a quelque chose de très poétique, de très qui accentue aussi la mélancolie du film.
Je sais pas si j'ai compris, mais moi j'ai aimé le fait que d'un coup on sorte, en effet, du sentier battu et du film qui nous tendait les bras, et donc moi j'ai eu l'impression de retrouver, pour le pire ou le meilleur, mais des films de Lelouch, en fait, façon un homme qui perd un moment. On quitte l'histoire pour des second rôles, des personnages. Je dis, mais pourquoi c'est ça? Et ben parce que c'est ça. Et qu'à un moment, c'est comme s'il filmait des moments. C'est comme presque si tu veux un documentaire sur cette Alice, jouée par Alba Rohrwacher, et qui à un moment recevait ça. Et donc, on en fait quoi? Et moi, c'est des petits. En fait, je cherche pas à comprendre. La chance que j'ai pu avoir, c'est de m'abandonner totalement et d'être prêt à les suivre, quoi qu'ils fassent. Alors oui, c'est moins intense à ce moment-là, mais. Moi, je ne m'ennuie pas. Et puis, je sais qu'à un moment, on va les retrouver. De la même manière qu'il fait appel à Vincent Delerme pour faire la musique.
Allez-y.
Mais Vincent Delerme, en soi, quand vous dites un hôtel hors saison, de la mélancolie qui doit être un petit peu malicieuse, c'est les chansons de Vincent Delerme. Et je trouve que, alors ça pourrait faire ton sur ton.
J'allais dire, oui, il y a un côté, on accentue beaucoup ce décor.
Moi, je dois être bon public, mais moi, j'adore Vincent Delerme, mais je trouve que c'est vraiment idéal. Et que cette musique-là permet aussi, et c'est ce que j'aime, c'est quand même un film où on enlève beaucoup, beaucoup de dialogues, et je trouve que ça fait du bien de pas tout surexpliquer. Et quand il y en a, ils sont marrants. Par exemple, quand le personnage d'Alba arrive pour la première fois, elle parle italien, donc pourquoi et qu'il lui dit, tu parles pas mieux français, t'as tout le même accent que 15 ans plus tôt, hop, et on passe à quelque chose. On ne cherche pas à justifier, c'est ce que j'aime. Et moi, ces embardés-là, en effet, je comprends qu'on puisse s'y ennuyer, qu'on puisse trouver ça, mais moi, j'ai fonctionné.
Non, je fonctionne vraiment pas.
Après, c'est ça.
Je vais vous dire pourquoi. Vraiment, d'abord parce que ça m'ennuie profondément.
Non, mais c'est possible.
Je ferme les yeux à ce moment-là. Ouais. Et surtout parce que l'essentiel du film n'est pas là. L'essentiel du film, il est dans l'idée que elle a fait des choix par défaut, c'est rangé. Et quand ressurgit son grand amour, qui est devenu un acteur de cinéma, en fait, c'est un peu le grand, c'est la grandeur du cinéma qui ressurgit dans sa vie. La vie en grand, le grand amour, tout est en grand, tout est grand écran, quoi. Et elle a fait une choix de télévision, elle a fait une choix de sitcom, elle a fait une choix où tout est petit. Et donc, ce qui est très beau ici, c'est que Stéphane Brisé nous dit, en fait, quelque part, de son point de vue à elle, le cinéma, c'est tout ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est-à-dire l'appeler, aller le voir, coucher avec lui, renouer, en fait, ressentir ce frisson-là. Et en fait, quand il est de ce côté-là, c'est-à-dire, c'est un peu une femme qui a fait opter pour des choses très très réduites et qui vient, en fait, s'offrir le frisson d'une vie de cinéma parce que c'était son grand amour et un grand acteur de cinéma, là, ça me touche. Ça me touche parce que je vois ce qu'il y a de pathétique de son côté à elle aussi. Sauf que, ce fameux moment quand même de 20-30 minutes où on s'emmerde, pardon, mais c'est le moment où le film n'est ni du côté du cinéma ni de la télé, mais du documentaire. Alors, côté un peu sujet, on va essayer de faire résonner ça avec le statut des vieux, enfin, la vie des vieux dans un EHPAD. Ça ne marche pas. Moi, je préfère quand on nous récupère à la fin et qu'on comprend qu'elle a fait ce choix complètement kamikaze d'aller quand même faire ce qu'il ne fallait pas et que le cinéma est du côté de l'interdit, mais d'un très bel interdit.
Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, je perçois le personnage masculin comme l'ayant abandonné au moment où il est devenu célèbre. Et que c'est ça aussi que raconte le film.
Les victimes collatérales, voilà. Bien sûr, de la réussite.
Tu prends, tu jettes, tu pars.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais?
Hors saison de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacker, c'est en salle aujourd'hui.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Et nous parlons à présent du film Laissez-moi de Maxime Rapaz avec Jeanne Balibar.
Je vous demanderai que vous me racontiez tout de votre métier, de votre vie, cette autre vie, pourquoi pas. Et puis je vous parlerai de ma vie aussi.
Il comprend les choses du monde, mais il a sa propre réalité.
Et vous êtes seule à vous en occuper?
Oui, je travaille à domicile.
Vous avez reconnu Jeanne Balibar qui incarne Claudine, une couturière qui s'occupe seule de son fils handicapé à qui elle consacre chaque jour de sa vie, sauf peut-être une partie de son mardi. Elle quitte alors le domicile familial, elle monte dans les hauteurs de ce petit village des Alpes suisses et se rend dans un hôtel d'altitude. Elle y soudoit alors le jeune réceptionniste qui, contre un petit billet, lui indique quel homme séjourne ici, seul pour quelques jours. Et pour quelques heures, Claudine donc va oublier son quotidien et se laisser aller dans un rapport charnel avec ses hommes de passage, jusqu'au jour où cette routine est bousculée par une rencontre, un homme qui prolonge son séjour jusqu'à ne plus vouloir partir. Claudine va donc devoir faire des choix. Adrien Desnouettes, qu'avez-vous pensé de ce premier long métrage du réalisateur suisse Maxime Rapaz?
Eh bien, plutôt du bien. En fait, j'ai un peu le même ressenti qu'avec le Stéphane Brisé dont on vient de parler. En fait, plutôt du bien sur un trois quarts du film. Et hélas, la fin me laisse un peu sur ma faim. Plutôt du bien, je vais commencer évidemment par là. Parce
s'il
que
vous plaît.
Oui, c'est quand même, non, mais même, c'est le sentiment qui domine. Je suis vraiment séduit par... Je trouve que c'est très finement écrit, c'est assez sophistiqué. Le personnage est beau. Je la trouve parfaitement, je dirais... vous savez, parfois, on sent les intentions d'un film qui prédomine, qui écrase un peu le personnage, qui pèse sur ses épaules. Mais là, pas du tout. Je vois surtout ce qu'il arrive à me dévoiler de ce personnage au fur et à mesure. Je comprends, par exemple, que on la voit d'abord aller voir des hommes. Donc, dans ce
ça commence comme ça.
Ça commence comme ça.
Donc, elle on est pourrait... dans ce train qui monte...
voilà, donc voilà. Mystère. Elle est un peu portraiturée en croqueuse d'hommes. Et en même temps, il n'y a pas vraiment d'intention. On ne comprend pas les intentions, si ce n'est voilà charnel. Mais on se dit, bon, tiens, c'est étonnant quand même. C'est assez en porte-à-faux avec ce personnage de 50 ans, tout ça, on comprend pas. Donc il y a un mystère. Et le mystère nous est peu à peu dévoilé justement dans cette très très bonne partie du film où on comprend que si elle s'autorise à, mine de rien, monter dans un hôtel dans l'altitude, s'offrir à des hommes qui ne sont que des hommes de passage, parce que ça c'est un détail qu'il faut noter, elle ne s'offre que des hommes de passage, des hommes qui partent le lendemain ou qui ne restent pas plus de 2-3 jours. Quand par exemple un homme est là avec sa femme ou qu'il est là 2 semaines, elle n'en veut pas. En fait, elle veut des hommes détachés. Elle cherche des hommes qui vont partir, des courants d'air. Pourquoi? Parce qu'on comprend peu à peu dans le film, et c'est ce qui est très beau, vraiment, je ne fais pas que raconter le film, c'est vraiment ce qui est très très bien fait. On comprend qu'au contraire, elle est l'incarne, elle est l'antagonisme de ça. Elle est une femme assignée à domicile, attachée. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a à charge, toute seule, un grand garçon qui est handicapé assez lourdement, et dont elle s'occupe. Mais elle est vraiment, et là le film pourrait paraître un peu lourd, mais non, c'est vraiment assez délicatement déplié, elle montre que... En plusieurs étapes, on comprend qu'elle est vraiment assignée à sa table, quoi. Elle travaille à domicile, elle doit le surveiller. Quand elle s'offre ses embardées en altitude avec des hommes, elle doit le confier à sa voisine. Tout prend d'une organisation. Et en plus, s'ajoute à ça, évidemment, le fait qu'elle vive en fond de vallée. Vraiment, elle est clouée, quoi. Elle est enracinée. Et on comprend assez vite, là aussi, de manière assez subtile, que si elle est seule, c'est parce que son mari n'a pas supporté cette charge, ce fardeau, et qu'il est parti, comme ce que font tous les hommes, la plupart du temps, que les fardeaux sont un peu lourds. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se retrouve, en fait, à imaginer avec son fils une vie de voyage à cette à ce père qui est absent.
Et c'est ça, parce qu'elle elle demande en fait aux hommes qu'elle rencontre de leur raconter Thierry Chaise une ville où d'où ils viennent, qu'ils ont bien connu, et elle se fait celle qui raconte cette histoire ensuite à son fils, parce que comme vous l'avez dit Adrien de Nouette, Claudine elle ne peut pas voyager parce qu'elle doit s'occuper de son fils, parce que son fils ne peut pas partir en voyage avec elle. Donc c'est l'histoire d'abord de cette solitude de cette femme qui n'a pas le choix.
Oui, et puis c'est important de dire que l'action se situe au XXe siècle, à une époque où il n'y a pas de portable.
Dans les années 90.
Les années 90, et où donc elle va pouvoir faire ce récit à travers des cartes postales qu'elle reçoit, parce qu'on se dit bah, pourquoi on ne s'appelle pas. Et ça, c'est pas mal. Et vous avez, alors, moi, c'est un film où je m'en suis presque voulu de ne pas avoir autant aimé que ça, parce que cette délicatesse, la présentation est absolument remarquable. Et évite au film l'écueil majeur qui se présentait devant nous, qui est le film à sujet, comment une femme seule élève son fils handicapé. Le film n'est pour moi jamais ça. Il n'est jamais ça aussi, grâce à son interprète, on parlait d'Alba en vacances tout à l'heure, Jeanne Balibar, là encore, quel régal quand on aime les comédiens et les comédiennes, de voir Jeanne Balibar qui a toujours cette singularité dans la manière de s'exprimer, de se mouvoir, qui fait que ça sera toujours quelque chose d'étonnant. Mais moi, je la préfère encore plus, Jeanne Balibar, dans des films, entre guillemets, plus mainstream, plus grand public, comme Boléro, hein, parce qu'elle fait exploser les coutures. Là, le film est quand même très dessiné sur elle, et c'est compliqué pour elle, parce qu'il l'épouse. Alors, ça prouve le regard de ce metteur en scène sur elle, mais j'ai le sentiment que la peur vraiment du metteur en scène de déborder l'ensentimentalisme, de faire le pas de trop, de nous provoquer une larme, fait que j'ai l'impression de visiter une maison et je fais attention où je mets les pieds. Et c'est ça qui me met une distance. Et en même temps, sans cette distance, peut-être que le film s'effondre et fait que c'est pire. Donc voilà, mais je suis entre deux eaux pour ces raisons-là.
Il y a une très grande douceur, vous l'avez dit tous les deux, dans ce film, et notamment dans le jeu de Jeanne Balibar, qui est là par sa voix, on l'a entendu effectivement dans la bande-annonce, l'extrait tout à l'heure, mais là aussi par tous les visages qu'elle incarne, on l'a dit. Elle commence par être cette femme séductrice, elle est aussi cette mère aux petits soins quand elle retourne effectivement dans le bas de la vallée, mais elle a aussi ce visage très dur de la femme qui porte tout sur ses épaules, en quelque sorte. Et puis il y a quelque chose du corps, elle joue presque avec son corps, il y a quelque chose de chorégraphique, presque de la danse, Adrien de Nouette, vous l'avez noté aussi ?
Bah, alors, je sais pas si j'ai noté cette dimension chorégraphique de la danse, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que il faut vraiment faire un point Jeanne Balibar. Parce que certes, le film est cousu sur mesure pour elle, mais il y a d'abord dans le choix de ce casting-là quelque chose de très intelligent. C'est qu'on commence par cette femme mystérieuse, qui est, à 50 ans, capable de séduire n'importe quel homme de passage. Mais ce qui est très beau, c'est de choisir Jeanne Balibar pour jouer ça, parce que c'est évidemment Jeanne Balibar. Jeanne Balibar, c'est cette présence un peu évanescente, avec une voix... Je veux dire, vous parliez de films mainstream dans lesquels Thierry, vous aimiez la retrouver. Moi, Jeanne Balibar, je la rattache plutôt au cinéma de Desplechin où elle a été découverte, à une espèce de quelque chose de très presque aristocrate. Pour moi, Jeanne Balibar, c'est une présence aristocrate. Et donc, c'est une présence d'altitude. Et on la découvre en Jeanne Balibar. Sauf que ce qui est encore plus pathétique pour le personnage, c'est de voir que cette femme, voilà, physiquement très bien conservée, voilà, une très belle femme, est assignée et donc passe à côté de sa vie. Et donc, ces hommes de passage, c'est aussi quelque part quelque chose pour une manière pour elle de rattraper. Voilà, de rattraper des choses qu'elle aurait pu vivre. Et le fait que ce soit joué par Jeanne Balibar, c'est ce contre-emploi qui m'intéresse. C'est-à-dire que celle qui coud des vêtements pour les autres chez elle avec un fils handicapé, ça n'est pas Jeanne Balibar. Ça, c'est vraiment un très, très grand contre-emploi. Et je la trouve quand même assez crédible ici. Là où j'ai une nuance, quand même, et c'est la même, en fait, que, hélas, dans le film d'avant, hors saison, c'est qu'à un moment, le film me perd, en fait. À un moment, le film m'ennuie. Mais pas si vite, en fait. Il y a vraiment tout un tissu de métaphores assez beau. Il y a un grand barrage juste à côté de l'endroit où elle vit. Évidemment, ce barrage, c'est tout ce qu'elle retient, c'est tout ce qu'elle contient, qu'elle ne peut pas vivre. Tout cet amour qu'elle s'empêche de vivre et qu'elle sublime dans des moments charnels fugaces. Mais donc, voilà, bon, ça peut être un peu lourd comme symbole, mais j'aime bien qu'il tisse tout un tas de choses comme ça pour dévoiler son personnage, dévoiler son actrice, mettre à nu Jeanne Balibar, quelque part. Et ça marche. Mais il y a un moment, pardon, mais... Et le pire, c'est la fin. C'est vraiment que... Alors que ce film...
Ne racontez pas la fin.
Non, mais alors que ce film avait été brossé tout en subtilité, était très sophistiqué, eh ben, il est un peu à l'image de sa BO, qui est des notes de piano vraiment qui nous guident sur ce qu'il faut ressentir. En fait, il s'en remet, je ne dirais rien de plus, mais en fait, la fin n'est pas à la hauteur du film. Je trouve qu'il s'en remet à une espèce de poncif tragique sur cette femme que tout le monde abandonne. Et je trouve que la fin du film n'est pas à la hauteur de tout.
On va revenir au piano, Adrien Denouette. Si on fait ce parallèle avec le film précédent, Vincent Delerme tout à l'heure, du piano, là aussi du piano, là aussi des paysages grandioses.
Oui, c'est une béotisannerie en aptitude.
Les paysages grandioses, ils sont là aussi importants dans ce film.
Oui, et en effet, ça pourrait être lourd, mais je trouve qu'ils sont bien filmés, bien mis en scène et pris pour ce qu'ils sont. Ils n'essayent pas de nous faire... Voilà, ce sont des personnages à part entière. Et moi, cette vision de ce barrage, ces grandes montagnes qui se situent derrière, il faut bien un moment... Enfin, c'est presque ce qui me permet par moment d'être dans une incarnation. Et je veux dire, attends, je m'accroche à quelque chose. Mais je rejoins l'idée que... Après, c'est un premier long métrage. On sent qu'il y a aussi ça et qu'il faut bien finir. Et que je trouve que cette histoire, elle est compliquée à finir, vu tout ce qu'il y a eu jusqu'avant, et qu'il a pris un choix que moi, non, j'aime pas beaucoup, mais en même temps, je ne serais bien incapable de dire comment, moi, j'aurais pu imaginer finir cette histoire-là.
Ah bah voilà, j'allais vous demander, parce qu'on est dans le mélodrame avec cette programmation ce mercredi midi, ouais. On arrive toujours encore à raconter une histoire d'amour qui naît, en tout cas, ou qui renaît, on y arrive toujours encore dans le cinéma français, c'est un sujet indémodable, Adrien Denouette.
Oh bah, le mélodrame, oui, c'est indémodable. D'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai réalisé en rétrospectivement que même quand moi je viens ici parler de différentes séries ou films, on parle beaucoup de mélodrame. Et ce qui est amusant, c'est que le mélodrame, en fait, il a complètement disparu de la télévision. C'était avant le grand mélodrame classique, c'est-à-dire Glou Glaceur, ce qui a brillé dans les années 40-50, ça a complètement disparu. Et puis ça avait été aspiré par le soap opéra, vous savez, les feuilletons télé. Les feuilletons télé, on les regarde de moins en moins. L'audience vieillit, il y en a de moins en moins qui sont programmés. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même encore toujours un très très grand besoin de mélodrame dans la fiction. Et moi, ce que j'aime bien, c'est justement que le cinéma d'auteur, comme ça, un premier film suisse, ou même le grand cinéma d'auteur à la Stéphane Brisé, viennent chasser sur les terres du mélodrame. Parce que je pense que c'est un besoin, au-delà du cinéma, je pense qu'on a un besoin de mélodrame. Je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et j'aime bien que le cinéma se penche sur ce genre populaire et qu'on renoue avec cette tradition.
J'aurais aimé qu'on termine cette émission sur du piano. Thierry Chaise, mélodrame toujours.
Mais oui, et c'est en ça que je disais que je m'agaçais moi-même de ne pas plus aimer, parce que moi je suis extrêmement client et j'aurais... aimer encore plus.
On va le revoir ensemble, si vous voulez.
Voilà, avec grand plaisir.
Ce très beau premier long métrage de Maxime Rapaz, Laissez-moi, avec Jeanne Balibar, Pierre-Antoine Dubet et Thomas Sarbacher. Merci à tous les deux. Thierry Chaise, on vous lit dans le magazine Première. Adrien Denouette, vous êtes critique de cinéma enseignant. On met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission, où vous retrouvez aussi ce débat critique et tous les autres en réécoute, tout comme sur l'appli Radio France.